إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour voir l'explication de la sourate At-Takathur, qui est une sourate mécoise. At-Takathur, que vous pouvez trouver traduit par la course aux richesses, a un sens en réalité plus large que cela, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ses serviteurs du fait qu'ils sont distraits par ce bas monde, au point d'en oublier la raison pour laquelle ils ont été créés, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Quant aux choses de ce bas monde, elles te permettent de concrétiser cet objectif immense qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Malgré cela, on voit que nombre de personnes sont distraits par ces biens au détriment de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans cette sourate « Al-haakumu takathur » « La course aux richesses vous distrait ». Et les richesses ici, elles ne sont pas limitées à l'argent, mais elles ont un sens général. C'est-à-dire qu'on aurait pu traduire littéralement le sens de ce verset en disant « Vous êtes distrait par l'augmentation, par l'accumulation ». Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé ici quelle est cette chose accumulée. Et ce afin que l'on comprenne qu'entre dans cela toute chose que l'homme peut amasser ici-bas et de laquelle certains pourraient se vanter. Donc entre dans cela les biens de ce bas monde, que ce soit l'argent, la monnaie, les maisons, les véhicules et ainsi de suite. Mais entre aussi dans cela les enfants, la famille, les gens à son service, la notoriété et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être objet de rivalité entre les gens, et pour laquelle nombre de gens se concurrencent en cherchant toujours à en avoir plus que les autres. Et telle est la situation de beaucoup de gens dans ce bas monde. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cette vie éphémère à plusieurs reprises dans son noble livre. Il dit par exemple subhanahu wa ta'ala « I'lamu ». انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite à la fin de ce verset: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C'est une jouissance trompeuse qui trompe beaucoup de gens. En effet, tu vois que beaucoup de gens sont distraits et préoccupés par les biens de ce bas monde. Tu vois celui-ci qui veut avoir plus d'argent que les autres. Celui-là veut avoir plus d'enfants. L'autre veut avoir une plus grande voiture. L'autre une plus belle maison. L'autre une plus grande entreprise. Et ainsi de suite. Et tu les vois se rivaliser dans cela. Ils se vantent et sont fiers de ce qu'ils ont acquis parmi les biens éphémères de ce bas monde. Comme l'a fait le propriétaire du jardin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat al-Kahf, et qui a dit à son compagnon, « Ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. » « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il s'est donc vanté de quoi ici? De ses biens, et également de son clan. On voit donc qu'At-Takathur, cela a un sens beaucoup plus large que ce que l'on pense. Et cette course aux richesses éphémères, et cette course à cette rivalité, c'est un trait dominant chez beaucoup de gens. Et cela les distrait de ce qui est meilleur et plus durable parmi les œuvres pieuses, comme la prière, le jeûne, l'aumône, la lecture du Coran, l'apprentissage de la science religieuse, le rappel d'Allah de manière générale, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Donc l'homme est de manière générale souvent préoccupé par quoi? Par l'accumulation des biens et des richesses de ce bas monde. Il est préoccupé par toutes ces affaires mondaines, alors qu'en parallèle de cela, Il est distrait et insouciant concernant l'au-delà. Et il reste ainsi dans la distraction et l'insouciance jusqu'à quand? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu meurs. À ce moment, tu te rendras compte, avec certitude, que la vie d'ici-bas n'était que jouissance trompeuse. Car tous ces biens que tu cherches à accumuler et desquels tu peux te vanter, ils vont t'abandonner le jour de ta mort. Et tu seras seul dans ta tombe, entouré de ton linceul. D'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, trois choses suivent le mort. Deux repartent, et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Puis sa famille et ses biens repartent. Et restent ses œuvres. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc une fois dans sa tombe, l'homme se rendra compte de tout ce temps qu'il a perdu à courir après des biens éphémères de ce bas monde. Des biens qui sont temporaires au détriment des œuvres de l'au-delà. Qui sont meilleurs et qui sont durables et qu'il retrouvera auprès de lui dans sa tombe. Et médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit selon le sens rapproché, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Il n'a pas dit jusqu'à ce que vous demeuriez dans les tombes. Et ce car les tombes, ce ne sont qu'un passage temporaire. C'est une vie intermédiaire, appelée al-barzakh, qui est entre la vie d'ici-bas et la vie éternelle de l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ici cela de visite et non pas de demeure. À partir de là, on voit l'erreur de ceux qui disent, lorsqu'une personne meurt et qu'elle est enterrée, il se trouve maintenant dans sa dernière demeure. Ou d'autres qui prétendent à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prétendent exhorter les gens, puis propagent par exemple une photo d'une belle maison à côté d'une photo d'une tombe en disant, voici quelle sera ta dernière demeure. Et ceci est une grave erreur. Car la tombe, ce n'est pas la dernière demeure. Mais la dernière demeure, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Quant à la tombe, c'est un lieu de passage, une vie intermédiaire dans laquelle le serviteur peut jouir de certains délices ou alors être châtié. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du châtiment de la tombe et de nous préserver du châtiment de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala attire ensuite l'attention de ses serviteurs et les avertit en disant Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. C'est-à-dire qu'une fois dans vos tombes, vous saurez que cette course aux richesses et cette vantardise et cette rivalité ne vous furent d'aucun profit. On trouve dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'enfant d'Adam dit, mes biens, c'est-à-dire les biens qu'il possède. Ensuite, il dit, alors que tu n'as de tes biens que ce que tu as mangé et ainsi réduit à néant. Bien que tu as utilisé pour manger, tu les as réduits à néant. Ou ce que tu as porté comme vêtements et que tu as ainsi usé. Ou ce dont tu as fait aumône et que tu as ainsi préservé. C'est-à-dire, c'est cela les biens que tu as réellement préservés pour l'au-delà. Et telle est la situation. Tout l'argent qui est entre tes mains, soit tu l'utilises pour manger ou pour boire, soit tu l'utilises pour te vêtir, et ainsi de suite, soit tu l'utilises pour l'aumône, pour les dépenses sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que tu retrouveras dans ta tombe et au jour de la résurrection. Et bien que l'on sait cela, nombreux parmi nous sont quand même dans l'insouciance et distraits par ce bas monde. Mais une fois dans ta tombe, tu n'auras plus aucun doute à ce sujet. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit à nouveau à ce sujet, afin de nous faire sortir de cette insouciance. Il dit subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Encore une fois, mais non, vous saurez bientôt. C'est-à-dire que vous saurez bientôt qu'est-ce qui était profitable et qu'est-ce qui était nuisible ici-bas. Car chacun de nous sera rétribué en fonction de cela. Et chacun de nous verra sa demeure finale dans l'au-delà en fonction de ses œuvres. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Mais non, si vous saviez de science certaine. C'est-à-dire que si vous saviez avec certitude ce qui vous attend, ce qui vous attend dans la tombe, ce qui vous attend dans l'au-delà, vous ne resteriez plus un instant dans cette insouciance, mais vous vous empresseriez plutôt vers les œuvres pieuses. Mais l'absence de certitude, le manque de connaissance, la faiblesse de la foi, tout cela conduit la personne à l'insouciance et à l'égarement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Nous croyons tous au paradis, nous croyons tous à l'enfer. Toutefois, est-ce que nous accomplissons quotidiennement les causes nous permettant de gagner ce paradis et les causes nous permettant de nous préserver de cet enfer? Et les gens diffèrent à ce sujet, et il n'y a pas de doute que ceci provient d'un manque de certitude et d'une faiblesse de la foi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Latarawunna al-Jahim, vous verrez certes la fournaise. Donc tout d'abord, j'attire votre attention ici sur un point concernant la récitation de cette sourate. Il y a certaines personnes qui récitent les versets sans marquer de temps entre les différents versets. Et leur sunna, de manière générale, est de marquer un temps d'arrêt à la fin de chaque verset. Mais il est permis, d'un point de vue général, de ne pas marquer ce temps d'arrêt. Toutefois ici, si tu ne marques pas ce temps d'arrêt et que tu joins ce verset avec celui qui le précède, en disant Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, sûrement si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on modifie le sens. Car on rend la vision de la fournaise conditionnée par quoi? Par le fait d'avoir la science certaine. Comme si cela était une condition pour voir la fournaise. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'il est important de marquer un temps d'arrêt entre ces deux versets. Au jour de la résurrection, les gens verront le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans une autre sourate, Waji'a yawma idin bi jahannam. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. L'homme se rappellera alors. Mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Il sera trop tard. Une fois qu'il verra l'enfer, il va se rappeler. Il va se rappeler que ceci est une réalité, qu'il fallait dans ce bas monde œuvrer afin de se préserver de ce feu de l'enfer et afin de pouvoir faire partie des gens du paradis. Une fois qu'il verra l'enfer, il va se rappeler, il aura la certitude. Mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Le rappel ne lui sera plus d'aucune utilité à ce moment-là. Car au jour de la résurrection, il n'y aura plus d'œuvres. Mais il n'y aura que le jugement pour les œuvres que nous avons accomplies dans ce bas monde. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, c'est-à-dire la fournaise, le feu de l'enfer. Après avoir entendu parler de l'enfer, et que l'enfer nous fut décrit ici-bas, à travers les textes du Coran, les textes de la Sunna. Au jour de la résurrection, nous verrons de nos yeux le feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et ne trouveront pas d'échappatoire à celui-ci. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. C'est-à-dire que vous serez jugés, vous serez interrogés au sujet des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé dans ce bas monde. Chaque bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, tu auras à rendre des comptes quant à celui-ci. Est-ce que tu as été reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu t'es acquitté des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce bienfait? Si telle est ta situation, que tu es reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'es acquitté des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'as pas utilisé ses bienfaits pour lui désobéir ou pour commettre des péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera des bienfaits plus grands encore et plus durables que les biens éphémères de ce bas monde. Mais si tu as utilisé ces bienfaits dans les péchés, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'es laissé leurrer par ce bas monde et que tu n'as pas fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu seras châtié pour cela. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez dissipé vos biens, vos bonnes choses, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On voit qu'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits aux croyants comme aux mécréants. Donc médite sur la situation de ceux qui ont mécru lorsqu'ils seront présentés au feu au jour de la résurrection. Vous avez dissipé vos biens, les bonnes choses qui vous étaient accordées, les bienfaits dont vous avez été comblés ici-bas. Vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. Il n'y a donc plus de bienfaits pour vous dans l'au-delà. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, on vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant, pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Donc tous ces bienfaits dont tu jouis dans ce bas monde, le bienfait de la santé, le bienfait de la vue, le bienfait de l'ouïe, et ainsi de suite parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés que l'on ne peut dénombrer. Tous ces bienfaits, ils ont un prix. Et le prix de ces bienfaits, qu'est-il? C'est que tu sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu fasses preuve de reconnaissance envers lui, en ayant la ferme conviction dans ton cœur que ces bienfaits te proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu fasses preuve de reconnaissance envers lui, en le louant avec ta langue et le remerciant. Et que tu fasses preuve de reconnaissance envers lui, en utilisant tous ces bienfaits qu'il t'a accordés dans son obéissance. Tu utilises ta vue pour regarder ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de regarder. Et tu préserves ta vue de toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. Ceci est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu préserves ton ouïe de toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit d'écouter. Et tu utilises ton ouïe dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant le Coran, en écoutant des cours religieux qui sont profitables et ainsi de suite. Tu fais preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant ta langue dans son obéissance, en récitant le Coran, en faisant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala du dhikr, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tout ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la langue est un grand bienfait dont tu jouis dans ce bas monde. Tu dois donc la préserver de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme le mensonge, la médisance, la calomnie, les paroles vulgaires et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la santé. Tu utilises cette santé dans son obéissance pour te tenir debout en prière, pour jeûner le jour et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé des richesses, t'a accordé des biens. Tu utilises ces biens dans son obéissance en multipliant les aumônes, en participant à la construction des mosquées, en participant à l'aide aux nécessiteux et ainsi de suite. À commencer par prendre en charge les dépenses de ceux qui sont à ta charge parmi les épouses et les enfants et ainsi de suite. Et tu n'utilises pas cet argent pour acheter des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdites. Et il en est de même pour l'ensemble des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Si tu fais cela, que tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala te remplacera ses bienfaits dans l'au-delà par des bienfaits meilleurs, des bienfaits éternels. On rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection, c'est-à-dire parmi les bienfaits. Première chose, parmi les bienfaits. C'est qu'on lui dira, ne t'avons-nous pas accordé un corps en bonne santé et ne t'avons-nous pas abreuvé d'eau fraîche? C'est-à-dire que le serviteur, il sera interrogé au sujet de ce corps en bonne santé. Il sera interrogé au sujet de cette eau fraîche qu'il boit. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour de chez lui et rencontra Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhumah. Il leur demanda alors, qu'est-ce qui vous a fait sortir de vos demeures à cette heure-ci? Alors ils lui répondirent, la faim au messager d'Allah. C'est-à-dire qu'ils n'avaient trouvé pas de quoi manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est la même raison qui m'a fait sortir de chez moi. Puis il leur ordonna de se lever. Ils se levèrent et se rendirent chez un homme parmi les Ansar. Mais celui-ci n'était pas présent. Donc lorsque son épouse vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit alors, soyez les bienvenus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors où était son mari. Elle répondit qu'il était parti chercher de l'eau fraîche. Et à cet instant, il arriva. Il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux nobles compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhumah. Alors il dit, Alhamdulillah. Aujourd'hui, personne n'aura d'hôte plus noble que les miens. C'est-à-dire qu'il se réjouit de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons. Il partit alors et revint avec une branche de palmier sur laquelle il y avait quelques dattes. Puis il leur dit de manger. Il prit ensuite en sa main un couteau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, surtout, ne sacrifie pas de bête laitière, c'est-à-dire une bête qui allaite. Alors l'homme sacrifia en leur honneur une bête, c'est-à-dire qu'il sacrifia une bête afin de les honorer, de pouvoir les nourrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses deux compagnons, mangèrent de ces dattes ainsi que de cette bête. Une fois rassasiés, qu'ils avaient mangé et bu à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma en ces termes. Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous aurez à rendre compte de ses délices au jour de la résurrection. Vous serez interrogé au sujet de ses délices au jour de la résurrection. Puis il leur dit, c'est la faim qui vous a fait sortir de chez vous, et vous n'allez y entrer qu'après qu'on vous ait accordé ses délices. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers celui-ci que même cette nourriture qu'ils ont consommée alors qu'ils étaient affamés, ceci fait partie des délices au sujet desquels le serviteur sera interrogé. Ceci fait partie des délices pour lesquels tu te dois d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas que la nourriture que tu manges, que l'eau que tu bois, que de la santé dont tu jouis, ceci est un droit que tu mérites. Mais ceci est une faveur et une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Tu dois donc faire preuve de reconnaissance envers lui, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans cette sourate une mise en garde contre le fait de se laisser leurrer par ce bas monde. Comme vous le savez, ce bas monde est un monde éphémère. C'est un lieu de passage dans lequel tu te dois de profiter pour prendre tes provisions pour l'au-delà. Donc tu ne dois pas te concentrer sur les affaires de ce bas monde, au détriment de ce qui te sera profitable dans l'au-delà. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, afin de lui vouer un culte exclusif. Il ne t'a pas créé pour que tu passes ta vie, du matin au soir, jour et nuit, à chercher à accumuler les richesses de ce bas monde. Si tu as ce qui te suffit et ce qui suffit à ta famille et ceux qui sont à ta charge, alors pourquoi continuer à consacrer l'ensemble de tes journées à l'accumulation de ces biens éphémères? Ne sais-tu pas que la mort peut te surprendre d'un moment à un autre? Combien sont ceux qui, du jour au lendemain, sont pris d'une maladie, puis ne restent ici-bas que quelques jours, et quittent ensuite ce bas monde. Et combien sont ceux qui meurent d'une mort subite? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, et de nous faire mourir sur le tawhid et la sunnah, et dans une situation qu'il aime et qu'il agrée de nous. Quoi qu'il en soit, la mort ne prévient pas. Tu ne sais pas quand elle va venir. Tu dois donc t'empresser de prendre un maximum de provisions en multipliant les œuvres pieuses pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ceci qui te sera profitable dans l'au-delà. Quant aux biens de ce bas monde, comme on a dit, ils te quitteront à ta mort. Et seuls ceux que tu as utilisés sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala te seront profitables et resteront auprès de toi. Donc il y a dans cette sourate également le rappel de la mort. Le rappel de cette mort te faisant quitter ce bas monde, te coupant de ses plaisirs et de ses délices. Il convient donc à chacun d'entre nous de nous préparer pour ce moment, en réformant nos situations, en nous corrigeant, en nous repentant à Allah subhanahu wa ta'ala de nos péchés, et ne pas rester dans l'insouciance, dans les distractions, dans les futilités, dans les plaisirs éphémères de ce bas monde, qui en réalité ne nous sont d'aucun profit, ni ici-bas, et encore moins dans l'au-delà. Il y a également dans cette sourate une mise en garde contre le feu de l'enfer. Comme on a dit, nous croyons tous à l'enfer, mais combien parmi nous œuvrent réellement pour se préserver du feu de l'enfer? Lorsque tu lis ces versets, tu dois te rappeler de ce jour, le jour de la résurrection, le jour où tu verras la fournaise de tes yeux, et pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où je peux espérer être préservé de cette fournaise? Il n'y a pas de doute que nous avons tous des manquements. Il te convient donc de te corriger, de réformer ta situation, et de multiplier les œuvres de bien et de t'écarter des péchés et des désobéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, comme on a dit, il y a dans cette sourate, un rappel concernant le fait que les délices de ce bas monde et chacun de ces plaisirs dont on jouit nous seront interrogés à leur sujet. Il nous convient donc d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet, et ce, comme on a dit, en reconnaissant qu'ils proviennent de lui dans nos cœurs, en le proclamant avec nos langues et en utilisant ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous sortir de notre insouciance et de nous aider à multiplier les œuvres de bien et à nous repentir de nos péchés. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.